quand on ne sait pas quoi dire, ne dites rien. La présence, prendre la main de quelqu'un, lui, au lieu de faire, dites de quoi as-tu besoin, de quoi as-tu envie. Parfois, ça peut être des choses super pratico-pratiques. Aller chercher les enfants à la crèche, amener des soupes qu'on congèle. Tu vois, des trucs, nous amener en chimio pour nous faire la conversation et parler d'autres choses. Et puis, il y a ça aussi, c'est que moi, j'avais ma meilleure amie, coucou, tu te reconnaîtras, qui me dit toujours, et même encore maintenant, oui, mais il y a plus grave dans la vie. Je ne vais pas te raconter ça. Mais si, racontez-nous des choses de la vraie vie. Ce que vous avez vu au cinéma, votre dernière engueulade avec votre mec, ou le dernier week-end génial que vous avez fait, etc. On est dans la vie, quoi. On n'est pas qu'un malade.
Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminer ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la Lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes, celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodleck. Bienvenue dans Cheminement. S'il y a bien une personne qui contribue à améliorer la façon dont on se fait soigner en France, c'est Catherine Cerizet. Pour elle, tout commence avec son blog catherinecerizet.com, qui est le premier blog en France à avoir parlé du cancer du sein du point de vue d'une patiente. Aujourd'hui, Catherine est militante et elle ne s'arrête jamais d'agir pour la cause. Et croyez-moi, elle est inarrêtable. Cet épisode nous a beaucoup émus toutes les deux et je crois bien que ça s'entend dans nos voix. Alors je vous laisse le découvrir de ce pas. Catherine, on peut dire que tu es comme Shiva, la déesse aux multiples bras, qui, tiens-toi bien, représente la destruction, mais uniquement dans le but de créer un monde nouveau. Shiva transforme, innove et repense le monde. Et toi, Catherine, c'est celui de la santé que tu repenses en fonction de l'expérience patient. Et pour cela, tu prends part à de multiples projets. Tu es cofondatrice de Patient et Web, enseignante Perspective Patient à Paris 13 et directrice de l'expérience patient dans la start-up Entends-moi. Bonjour Catherine, c'est un honneur de te recevoir dans Cheminement.
Bonjour Marguerite, c'est un honneur d'être invitée dans Cheminement que j'adore.
Avec toi et pendant une petite heure, on va parler des patients experts. Ces personnes qui sont atteintes d'une maladie et qui ont développé au fil du temps une connaissance fine de leur maladie et qui disposent donc d'une réelle expertise dans le vécu quotidien. Alors, avant, comme je l'ai dit en introduction, tu prends part à plein de projets. Donc j'aimerais d'abord en savoir plus à ce sujet avec toi. Si on prend Patient et Web par exemple, c'est une société de conseil en santé fondée sur l'expertise patient. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?
Oui, alors ce qui est génial, c'est que Marguerite a hyper bien travaillé. Elle est allée sur mon LinkedIn, elle a fouiné. Ah, bravo !
Bah oui, évidemment.
Alors en fait, c'est un petit peu long. Mais ça vaut le coup d'expliquer pourquoi je suis arrivée à ouvrir cette agence. Au départ, en fait, j'étais claire principale de commissaire-priseur. Et en 2000, je suis tombée malade. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Alors évidemment, je ne m'y attendais pas du tout comme personne. Et puis j'avais 37 ans, j'étais jeune mariée, deux petits-enfants. Enfin, c'était quand même très, très compliqué. Et puis, ça a été très long parce que j'ai rechuté. J'ai rechuté 2 ans après les traitements. Et donc, la fin des traitements, vraiment, est arrivée en 2008. Donc 2000-2008, c'est vraiment très long. Et en 2009, mes enfants étaient évidemment plus grands. Ils avaient grandi, ils étaient au collège et au lycée. Et je m'ennuyais parce que j'ai été licenciée. Alors, ça étonne les gens, mais on a le droit de licencier, non pas pour la maladie évidemment, mais on a le droit de licencier pour désorganisation de l'entreprise.
Désorganisation de l'entreprise, ça veut dire quoi ?
En fait, le fait qu'il y ait une absence comme ça si longue, ça désorganise une entreprise. Il faut soit embaucher quelqu'un pour un temps qui peut être indéfini, en tout cas qui n'est pas défini à l'avance, ou alors restructurer avec les gens déjà en place. Moi, j'avais une équipe d'une dizaine de personnes, donc ça faisait 3 ans que j'étais arrêtée, puisque j'avais eu les premiers traitements, puis la rechute. Et donc, du coup, ils m'ont gentiment licenciée. Et quand t'es en plein traitement, parce que c'était la deuxième série de traitements, t'as pas envie d'aller au prud'homme, quoi. Donc je suis partie et donc ça faisait quelques années que je ne travaillais plus et que je me soignais et que j'élevais mes enfants. Et donc une fois tout ça passé, un an après la fin de mes traitements, je me suis dit tiens, je vais ouvrir un blog. J'avais travaillé, j'avais été bénévole dans une association qui s'appelle Vivre comme avant, où je visitais les femmes atteintes d'un cancer du sein qui venaient de se faire opérer, et j'étais hyper frustrée parce que j'aidais pas les gens, pas assez de gens, pas assez de femmes, j'en voyais pas, tu peux pas voir 40 femmes par semaine, c'est épuisant. Et je me suis dit tiens, mais un blog. Alors il faut quand même remettre les choses en perspective. On est en 2009, les blogs émergent. Donc là, maintenant, les blogs, c'est plutôt les vidéos, c'est plutôt Insta, etc. Mais à l'époque, les blogs émergeaient et il n'y avait pas ou très, très peu de blogs cancer du sein en France.
Et d'ailleurs, je pense que c'est toi la première femme à avoir parlé du cancer du sein du point de vue d'une patiente sur un blog, non ?
Surtout, je pense avoir été... Pardon. Je pense avoir été la première à... ouvrir un blog à mon nom. Parce que le cancer, et là il faut aussi remettre en perspective, c'était tabou, c'était une très longue et douloureuse maladie. Ça arrive encore malheureusement, mais les gens ne disaient pas qu'ils avaient ou qu'ils avaient eu un cancer.
Et moi, j'en parlais pas.
Non, pas du tout. Et moi, j'ai pas du tout calculé ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai ouvert mon blog. Alors, je suis un peu geek, donc je suis allée sur Internet, comment on fait un blog, etc., etc. Et donc, j'ai découvert ce monde. Et la première fois, on me demande comment tu vas l'appeler, etc. Donc, je l'appelle après mon cancer du sein. Mais le premier poste, c'est je me présente. Bonjour, je m'appelle Catherine Cerizet. Tu sais, le syndrome de la page blanche. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire ? Et en fait, ce blog, j'ai ouvert pour 2 choses. Donc, pour aider les femmes. Et plus de femmes, évidemment, puisque j'avais l'espoir d'avoir plein, plein, plein de vues. Et puis, parce que j'étais déjà persuadée qu'un patient bien informé est un patient mieux soigné.
Le savoir, c'est le pouvoir.
Exactement. C'est exactement ça. C'est une très jolie phrase. Et en fait, ça m'a complètement dépassée, parce qu'effectivement, c'était un des premiers. Et j'ai eu 3 millions de vues. Ça m'a complètement dépassée. Et donc, je suis rentrée comme ça dans le monde de la santé. Et comme j'ai pas ma langue dans ma poche, évidemment, j'avais des postes un petit peu... pas très politiquement corrects. Et donc, j'ai été repérée.
Et, comme quoi, par exemple ?
C'était le mois d'octobre et je déteste Octobre Rose, alors je vais en choquer plein. Mais Octobre Rose, c'est festif. Pardon, c'est du rose bonbon en fait. C'est plein de rose bonbon. Et on célèbre les survivantes. Sauf que, il y a plein de femmes qui rechutent et elles se sont battues comme les autres. Alors, je sais que le champ lexical de la guerre guerrier ne plaît pas non plus à tous, mais c'est un petit peu ça, quoi. On se bat et puis malheureusement, on rechute et ça devient métastatique et potentiellement, on peut en mourir, parce qu'il y a 12 000 femmes qui meurent du cancer du sein par an. Et ça me gêne, en fait. Ça me gêne qu'on célèbre les survivantes qui ont finalement fait la même chose que celles qui vont rechuter. Et donc, j'ai commencé à relayer certaines initiatives, etc. Et puis très vite, j'ai commencé à commenter ces initiatives, et pas toujours de façon positive. Et puis finalement, j'ai continué et ce blog a vécu de 2009 à 2017. J'avais énormément de commentaires, pas toujours sympa. Il y avait des commentaires, j'ai eu parfois quelques commentaires assez violents. J'en ai même pleuré parfois, etc. Et puis j'ai été repérée par des journalistes, j'ai été repérée parce que les journalistes, les blogueurs ont une voix un petit peu, on n'a pas de ligne éditoriale, on dit ce qu'on veut, etc. Moi, j'ai été contactée par des gens qui me disaient « Ah, j'aimerais bien que vous parliez de mon livre ou que vous parliez de mon appli. » Et moi, j'étais cas, je leur disais « Ok, avec plaisir, mais si j'aime pas, j'aime pas et je le dirai. » Et d'ailleurs, plein de gens ont joué le jeu. Et donc, j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux, etc. J'ai été repérée. Et puis, finalement, j'ai été repérée par les institutions, dont la Haute Autorité de Santé. Alors, moi, je ne connaissais pas la Haute Autorité de Santé. C'est, là, on connaît un peu plus avec, avec la crise Covid, mais c'est une institution qui donne des recommandations. Et puis, j'ai rencontré un ami, enfin, qui est devenu un copain, et qui me dit, mais c'est bien, on aimerait bien, on a des experts dans les groupes de travail, mais un blogueur. Donc, et puis je connaissais pas tout ce monde, donc je suis rentrée dans le monde associatif en me disant je vais apprendre, et j'ai appris plein de choses. J'ai appris ce qu'on appelle la démocratie en santé, j'ai appris les droits des patients, j'ai appris les plaidoyers, etc. Donc, et aujourd'hui, je suis administratrice de plusieurs associations. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai participé à des conférences, des congrès. On parlait du patient au centre. On ne veut pas être au centre, on veut être autour de la table et décider, co-décider avec le reste des acteurs. Et finalement... un jour, j'étais avec une amie à une conférence et on se dit, mais finalement, ils veulent tous faire des choses pour les patients, mais ils les font sans les patients. Et donc, c'était une amie qui était directrice de Cancer Contribution, Giovanna Marsico. Et on s'est dit, ben, ça n'existe pas, on va ouvrir une agence qui travaille avec les acteurs du système de santé, mais avec les patients. Voilà, c'est ça l'histoire. Et donc, c'était en 2012, donc il y a 10 ans, et ça n'existait pas. Et en fait, je me suis rendu compte, mais bien après, que j'ai participé à ouvrir des choses qui n'existaient pas, mais c'est pas calculé tout ça. C'est en fait, je me dis, oh ben tiens, ça n'existe pas. Ben, c'est génial comme idée, on va essayer de le faire. Et ça a marché.
En fait, tu as créé quelque chose pour répondre à un besoin que tu avais, mais tu t'es rendu compte, enfin, ça t'a dépassé, parce que à l'origine, tu l'avais fait pour les autres, enfin, un petit peu aussi pour toi, j'imagine, en se disant, bah, moi, j'aurais aimé avoir ça. Et en fait, dans le cheminement sur cette saison, je me suis rendu compte que toutes les femmes que j'interview font bouger les lignes de la santé. Parce qu'elles créent des choses qu'elles auraient aimé avoir avant.
Ouais, c'est exactement ça.
C'est à la fois très précieux et très puissant, je trouve.
Ouais, parce que tu vois, par exemple, le blog, c'est vraiment parti du fait que je me suis dit, moi, pendant mon parcours, j'aimerais rencontrer des femmes qui ont 10, 15, 20 ans de recul. Tu vois, moi, c'était super important. Les médecins te donnent 5 ans d'espérance de vie. Voilà, enfin 5 ans d'espérance de vie. Ils te disent, à 5 ans, il y a 90% des femmes qui sont en vie avec un cancer similaire au vôtre. 5 ans, quelle perspective, quoi, quand t'as 37 ans. Et j'aurais adoré rencontrer une femme qui avait 20 ans de recul. Et moi, là, en 2009, j'avais 9 ans de recul. Donc je me suis dit, toutes ces femmes qui vont me lire, elles vont se dire... ouais, c'est possible, quoi. Je peux y arriver, moi aussi. Et donc, c'était vraiment donner cet espoir-là. Et moi, je ne l'ai pas eu.
Et ça a beaucoup changé. Donc, tu parlais du fait que quand tu as commencé, ça, on n'en parlait pas, de quand on était malade, du cancer du sein, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a complètement changé. Comment tu réagis à ça quand tu vois, je ne sais pas, par exemple, sur Instagram, il y a beaucoup de femmes qui se prennent en photo. En fait, il y a vraiment une libération de la parole. Qu'est-ce que tu en penses?
Je trouve ça incroyable et je suis très très admirative de ces femmes qui... Moi, il n'y a aucune photo de moi en chimio, par exemple. Et à un moment, il y avait un concours sur Instagram, le concours Crâne d'œuf, je crois, ou quelque chose comme ça. Et je voyais toutes ces femmes qui se montraient sortant de chimio, etc. Et je trouve ça incroyable, je trouve ça super courageux. Je suis très très admirative, mais vraiment, ces femmes qui racontent leur parcours. Moi, à l'époque, en 2000-2002, il y avait très peu de forums. Ça n'existait pas. Il y avait un forum dans lequel j'ai effectivement rencontré une femme avec laquelle j'ai discuté, même une autre femme, mais qui avait un cancer beaucoup plus grave que le mien un cancer du poumon et qui en est décédée, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de traitement ou très très peu de traitement pour ce genre de cancer. Heureusement, ça a beaucoup changé. Et là, je me dis, il y a une sororité, une solidarité, mais exceptionnelle, et particulièrement dans le cancer du sein, qui est un cancer évidemment fréquent, mais beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, par exemple. Mmh. Les hommes parlent beaucoup moins, s'exposent beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Bon, déjà, les hommes parlent moins. Et puis, je pense qu'il y a des cancers qui les touchent, qui sont des cancers soit honteux, soit culpabilisants. Honteux, entre guillemets,
cancer
évidemment.
Des testicules, par
oui,
exemple.
Oui, ou de cancer de la prostate. Tu vois qu'il y a vraiment des conséquences délétères et qui peut avoir des conséquences délétères sur la sexualité. Donc, c'est des choses dont ils ne parlent pas. En revanche, les femmes, elles vont s'exposer avec un sein en moins. Facebook n'aime pas tellement ça. Souvent, dès qu'on voit un téton de femme, il ghost. Mais très franchement, je trouve ça incroyable. Moi, j'ai eu un mal fou à accepter ma mastectomie, accepter même ma reconstruction. J'ai eu 10 opérations avant de pouvoir me dire, ouais, ok, devant la glace, me dire, ouais, ok, ça le fait, quoi. C'est bon. Et donc, très, très admiratif de toutes ces femmes. Vraiment. Je trouve ça très bien. Et cette sororité, c'est... je vois quand... même moi, tu vois, quand je vais à mes examens annuels, je le poste sur Facebook ou sur Insta et j'ai mais des dizaines et des dizaines de messages qui me disent « on pense à toi ». Si je poste pas, elle s'inquiète. Mais je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve que Internet a complètement changé la façon de vivre sa maladie. Alors, il y a des gens qui disent « oui, mais elle s'expose, c'est même limite, en fait, tu vois, de... »
Mais est-ce que c'est pas cathartique aussi? Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle elles le font, de montrer des photos? Est-ce que ça fait pas du bien, au-delà du soutien qu'on peut avoir, juste de le faire?
Je sais pas quelles sont leurs motivations, faudrait leur demander. Je pense qu'elles le font, oui, pour elles, peut-être de justement se dire... Finalement, je m'accepte comme ça et acceptez-moi comme ça. Oui, au-delà de probablement. Et puis aussi quelque chose de plus macro, au-delà de pour elle, de dire voilà, le cancer du sein, c'est ça, quoi. C'est aussi avoir un sein en moins, perdre ses cheveux, etc. Je pense que pour certaines, il y a beaucoup de ça aussi. Une sorte de militantisme, et je trouve ça vraiment très très bien.
Alors, on arrive à la fin de la première partie de cette interview avec toi, Catherine. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en 3 parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.